dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel. Le mois de septembre 2006, selon Étienne Beaulieu.
Comme Nicolas Lévesque m'a demandé de donner mes impressions sur le mois de septembre, je dirais d'abord que le premier événement pour le mois de septembre, pour moi, c'est bien sûr la création de Radio Spirale, qui est un grand événement, à coup sûr, ça va être une grande aventure. Je félicite tous ceux qui font partie de l'équipe de départ et qui lancent ce nouveau moyen de communication. Je suis certain que ça va être une très grande aventure. Je voudrais souligner un événement qui a déjà été sursouligné, donc, et qui est un événement à côté duquel je ne peux pas passer pour le mois de septembre 2006, et qui est bien sûr la fusillade de Dawson, dont on a parlé apparemment sous tous les tons. Apparemment, tout a été dit sur la fusillade de Dawson, et il resterait simplement à digérer l'événement et à faire comme si on avait affaire à de l'inexplicable. C'est le mot qui est convenu d'accoler à cet événement de la fusillade de Dawson. Première question que je poserais à cet événement et à la façon dont il a été traité, c'est d'abord pourquoi aussi peu d'intellectuels ont pris la parole sur cet événement qui est quand même majeur du point de vue de société. Il y a très très peu de gens qui en ont parlé. Ça a sans doute à voir, petite hypothèse, ça a sans doute à voir avec la position de l'intellectuel dans la cité d'aujourd'hui, qui n'est pas là du tout pour prendre parole, pour essayer de comprendre. Je prends un autre exemple, sans vouloir faire de comparaison sauvage, mais lorsqu'il est arrivé l'histoire des banlieues en France, tous les intellectuels ont tenté de l'interpréter. Il y a eu la fusillade à Dawson, à peu près aucun intellectuel au Québec a pris la parole sur cet événement. Donc je profite de l'occasion pour dire, donc c'est peut-être le moyen de Radio Spirale de parler de ce genre de choses. Tout d'abord, ça se passe en deux temps. Deux temps, la façon dont l'événement a pu d'abord arriver et ensuite être traité. Ça me fait penser à plusieurs choses. La surprise qui a été celle des médias, qui a été celle de tout le monde un peu finalement, me fait penser à une chose, c'est-à-dire c'est l'absence de violence dans notre société. L'absence d'une violence qui fait en sorte que lorsqu'un événement de ce type apparaît, tout à coup, on a l'impression d'être face à un événement inouï, comme je viens de le dire. Alors que, effectivement, si on réfléchit un peu, c'est le contraire qui est plus réel. Bien sûr, la violence dont il est question ici n'est pas une violence organisée. C'est au contraire tout à fait désorganisé, sans aucune idée. Une chose à laquelle je pense, c'est que nous vivons dans une société qui était complètement pacifiée. Il y a apparemment beaucoup de guerres, puisque les médias chargent d'informations comme quoi il y a de la guerre. Or, c'est le contraire qui est vrai. Nous vivons dans une société ultra-pacifique, ultra-pacifiée, dans laquelle n'importe quel acte de violence a l'air d'être un retour de la barbarie, etc. Comme si toute la barbarie était derrière nous, comme si toute la violence avait réussi à être endiguée. Et c'est un peu ce que le sociologue et historien Norbert Elias avait théorisé jadis dans la première moitié du 20e siècle. Il avait essayé de voir en quoi la société occidentale était une forme de ce qu'il appelait la dynamique de l'Occident, ce qui était une forme de pacification des mœurs, et qu'il y avait donc toute une monopolisation de la violence par l'État qui faisait en sorte que les individus de plus en plus se trouvaient dépossédés d'une possibilité d'agir de façon violente, que ce soit dans les gestes plus quotidiens, les plus simples, ou dans les gestes les plus brutaux et extraordinaires. Et donc, c'est l'État qui progressivement s'est accaparé de la violence et qui a fait en sorte que les individus aujourd'hui vivent d'une façon tout à fait pacifique et civilisée, dans la théorie de Norbert Elias. Et ce qui aurait pour résultat, à l'extrême, la pointe de civilisation où on se place pour voir cette histoire de la violence, qu'un geste comme celui de Kimbergill est apparemment inexplicable. Or, il sera au contraire trop facilement explicable du point de vue de Norbert Elias. D'autant que, dans la théorie d'Elias, si l'État s'est accaparé de la violence progressivement pour s'en servir à des fins policières et à des fins militaires, par exemple, Il va aussi de pair avec cette théorie que l'État, d'un côté, permet certaines manifestations de violence qui sont la contrepartie de la violence qui a été enlevée aux individus. Par exemple, dans le sport. Norbert c'était très attentif aux phénomènes sportifs. Qu'est-ce qui, dans le sport, permet une violence qui est affichée sur la place publique et qui est visible, qui devient un spectacle de la violence et qui joue un rôle de catalyseur social, de catalyseur ou d'apaisement social. Donc, la violence, ici, elle est régulée, et on s'en sert comme instrument de régulateur social dans le sport. Et Kim Vergil en avait, lorsqu'on lit son journal, il en avait contre les sportifs principalement. C'est-à-dire que pour lui, il refusait ce type de régulation sociale qui était diffusée par le sport. Il refusait l'image du sportif comme de l'homme violent par excellence. Raison sans doute pour laquelle, pour lui, la violence était devenue une voie normale et naturelle. Donc, qu'est-ce qui explique le fait que, pour lui, ce n'était pas acceptable? Ça, j'en ai aucune idée. Par contre, ce qui est possible d'expliquer, c'est de dire il y a, dans sa façon d'agir, un révélateur de nos mécanismes sociaux. Un révélateur assez clair, du point de vue de Norbert Elias, en tout cas. Ça, c'est la première je dirais, l'événement dans son émission, comment est-ce qu'on a pu le saisir et trouver qu'il y avait quelque chose là d'apparemment inouï. Or, je pense pas que ce soit si inouï que cela. Deuxièmement, la façon dont l'événement a été traité, la façon dont l'événement a été saisi par la sphère médiatique pour devenir progressivement une chose de plus en plus banalisée, trivialisée, jusqu'à ce qu'on l'oublie aujourd'hui, date où j'enregistre l'émission, c'est-à-dire le 23 octobre, et on n'en parle presque plus. Ça fait plus d'un mois que l'événement est arrivé. Il est oublié, il est passé aux archives. Je vais faire appel à une théorie anthropologique, donc qui ne se combine pas nécessairement traditionnellement avec celle de Norbert Elias. Peu importe, je fais une sorte d'éclectisme pour essayer de comprendre la complexité de l'événement qui vient d'arriver. Et essayer de voir en quoi la façon dont les médias ont pu traiter l'événement serait spécifique au Québec. Je ne veux pas faire un Jane Wong de moi-même et dire que le Québec aura une façon spéciale de créer de la violence par son exclusion sociale, etc. Loin de moi, cette idée est complètement absurde, bien sûr. Mais il y a une façon un peu, je dirais, communautariste de traiter l'événement. De traiter ce qui a pu se produire comme violence et de l'intégrer dans un circuit communautaire. Et c'est-à-dire de faire en sorte que, selon la théorie de l'anthropologue René Girard, on fasse de l'événement violent quelque chose de religieux. Je ne suis pas en train de dire que l'événement de Dawson se manifesterait un retour du refoulé religieux, pas du tout. Mais au contraire que la façon dont les médias ont pu se saisir de l'événement et en faire quelque chose de présentable au public s'est révélé communautariste et d'un communautarisme religieux, typiquement religieux, sans du tout le nom de religion accolé dessus, sans du tout les rituels formels que l'on peut trouver dans une religion organisée. Néanmoins, donc, pour René Girard, ce type d'événement-là, le type de présentation des événements et de récupération par les grands médias, c'est une façon de montrer que la violence est susceptible d'arriver tout près de chez nous, comme on le dit couramment, que la violence est juste à côté de nous, et que c'est cette violence qui est fondatrice d'un sacré qui est sauvage et qu'on va civiliser peu à peu. On va civiliser en faisant de soit du bourreau ou de la victime des intercesseurs extraordinaires, ce que René Girard va appeler le pharmakos dans sa théorie. Pharmakos qui est à la fois une personne qui est intérieure à la communauté, mais qui est aussi extérieure par certains types, certaines distinctions, certains signes. Kim Vergil est le typique pharmakos girardien. Il est intérieur à la communauté, d'ailleurs ça a été une question tout de suite, est-il canadien, était-il étranger, était-il québécois, etc. Qui le connaissait, quel était son rapport avec la communauté québécoise? Ça a été la question qui tout de suite s'est posée. Était-il intérieur ou extérieur? Et réponse, les deux. Il était intérieur et extérieur. C'est-à-dire qu'il était la victime toute désignée d'un processus de révélation de la violence sociale. Et ça, C'est dans la théorie de René Girard, c'est le fondement d'une une sorte de sacré sauvage qui se fonde sur ce que dans la théorie de René Girard on appelle le sacrifice, qui est une sorte de pratique générale que pour René Girard, pratique générale de plusieurs civilisations, qui fait en sorte qu'une personne est choisie dans l'ensemble du dispositif social et cette personne étant marquée d'un signe d'intérieur-extérieur. Se voit choisie, se voit sélectionnée malgré elle pour incarner et, je dirais, apaiser toutes les tensions violentes qui sont latentes dans la société, etc. On a beaucoup critiqué René Girard pour le réductionnisme de sa théorie, c'est-à-dire qu'il faisait d'une particularité, d'une façon de fonctionner dans le système de la violence et du sacré. Qu'il ramenait à ce modèle toutes sortes de manifestations toutes différentes. C'est sans doute juste et il faut sans doute donc nuancer la théorie et le modèle girardien. Néanmoins, le sacrifice tel qu'il l'a entendu et tel que les grands médias le traitent, malheureusement, donne raison à René Girard. C'est-à-dire que les médias, et en particulier les médias québécois, ont fait de cet événement un moyen de cohésion communautaire et communautariste et sociale. Donc, Kim Vergil a été replacé dans sa communauté, dans son cadre de vie, etc. On a interviewé ses amis, tout ça, et on a fait dans une sorte de reaction shot, comme le cinéma le connaît très bien, c'est-à-dire on a montré la vie du héros par le regard de ceux qui sont juste à côté de lui, et donc on l'a recentré, on l'a mis au centre des perspectives dans à peu près tous les reportages qui étaient présentés, et on a fait de lui une forme de centre décentré de la société dans laquelle sa présence indique qu'il y a de l'étranger, qu'il y a de l'étranger au sein même de la communauté. Et c'est là que se produit l'inexplicable apparent d'une explosion de violence dont on ne connaissait rien. Donc, je dirais, le traitement de l'information s'est révélé communautariste malgré toute l'ouverture, le discours, etc., des grands médias qui veulent passer, bien sûr, pour plus ouverts qu'ils ne le sont, bien sûr. Et donc, sans vouloir, si vous voyez, j'espère, la différence entre un propos comme celui de Jane Wong qui va dire que le Québec contraint les individus à la violence. Mon propos n'est pas celui-là, mais de dire que le traitement de la violence, le traitement de l'événement violent, lui, est communautariste et religieux. C'est d'ailleurs dans le cinéma québécois, quand on retrouve, je crois, à l'état le plus pur, ce traitement de l'événement tragique, que ce soit de la petite aurore l'enfant martyr jusqu'à Mémoire affective de Francis Leclerc, on place un individu au centre de l'écran grâce à toute une série de procédés de reaction shot, et ensuite, on sacrifie progressivement cette victime, soit à petit feu comme dans l'enfant martyr, ou d'un seul coup comme dans Le temps d'une chaise de Francis Mankiewicz, et on met on fait de cette violence une sorte de récupérateur social. On fait en sorte, comme le dit René Girard, qu'un seul individu meurt pour faire survivre l'ensemble de la communauté. Donc c'est une façon, je dirais, de ne pas affronter le temps, de ne pas affronter le monde dans ses variations. C'est une façon de réduire la différence à la répétition, etc.